on a une heure pour méditer ensemble sur l'Esprit Saint. Bon, il se trouve que quand je suis devenu évêque, vous savez, un évêque a pour habitude de choisir une devise épiscopale. J'étais toujours marqué par la présence de l'Esprit Saint. J'ai pris comme devise un passage de la lettre aux Galates 5:25, « Marchons sous la conduite de l'Esprit ». Je l'ai fait pour trois raisons. D'abord parce que je crois que la vie dans l'Esprit, elle est vraiment caractéristique de la vie chrétienne. On pourrait dire que la vie chrétienne, c'est la vie dans l'Esprit. Je l'ai pris aussi parce que j'aime bien cette image de marcher, marchons sous la conduite de l'Esprit, cette image d'aller de l'avant aussi qui est caractéristique de la vie chrétienne. On est debout quand on est chrétien et on marche, on est en marche. Dieu nous veut vivants. Celui qui est mort, il ne bouge pas, mais celui qui est vivant, il va de l'avant. Et puis j'ai bien aimé aussi dans cette phrase de saint Paul le fait qu'il utilise la première personne du pluriel « marchons ». On est ensemble, on marche ensemble et on s'entraîne à marcher les uns les autres. Et je crois que l'évêque est le premier concerné. L'évêque doit le premier marcher attentif à l'Esprit-Saint. Alors je voudrais développer mon propos d'aujourd'hui, d'abord en faisant un petit parcours dans l'Écriture. Et puis ensuite, en regardant comment la vie de chaque chrétien peut être illuminée par l'Esprit Saint. Pourquoi je fais un petit parcours dans l'Écriture? Pour la raison que je vous ai expliquée le premier jour, dans mon homélie, lundi soir. C'est parce que vraiment la parole de Dieu, bien, voilà, la source, c'est une parole vivante, c'est une parole qui parle à notre cœur. Et donc, la parole de Dieu, elle est comme un trésor que nous portons dans des vases d'argile, comme le dit saint Paul. Mais un trésor auquel il faut sans cesse revenir et qu'il faut lire aussi dans la tradition de l'Église. C'est important de revenir à l'Écriture toujours. Ça, je sais, vous le faites dans les groupes de prière, du renouveau. Je crois qu'on a, depuis 20, 30 ans en France, on a bien pris conscience de la nécessité de l'Écriture. C'est important de commencer toujours par l'Écriture. Et qu'une petite communauté de foi, qu'elle soit une communauté paroissiale, d'un mouvement, d'un groupe de prière, il faut toujours qu'elle se penche sur l'Écriture. Je suis toujours surpris quand on commence une réunion dans une paroisse, par exemple. Alors on dit on va prier, puis on prend un texte qui a été écrit par tel ou tel. Pourquoi pas? Mais moi je trouve qu'on devrait d'abord commencer par prendre la parole de Dieu. Ensuite, on l'illumine, on l'éclaire avec un texte. Mais je trouve que lire l'Évangile du jour ou lire l'Évangile du dimanche prochain, voilà, ça c'est retourner à la source, c'est aller boire à la source. Alors moi je voudrais qu'on boive un peu à la source ensemble, en laissant justement le Seigneur nous parler de l'Esprit-Saint dans sa parole vivante. Et faire un petit parcours comme ça pour voir comment ce que, à travers l'Écriture, nous voyons comment l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans nos vies. Nous voyons ce qu'il fait en nous. Et donc on peut prendre conscience aussi de la mission de l'Esprit-Saint dans nos vies lorsqu'on scrute l'Écriture. Alors c'est sûr que dans l'Écriture, il n'y a pas un traité de l'Esprit-Saint ou tout un passage qui définit. Il faut aller chercher dans plusieurs endroits. Je vous indique un peu les endroits. Vous pourrez y revenir peut-être dans votre prière personnelle, dans la Lectio Divina, pour que cette méditation sur l'Esprit-Saint, elle soit pas seulement intellectuelle, mais voilà qu'elle prenne corps en vous, hein, dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos intelligences. Et d'abord, dans ce petit parcours dans l'Écriture sainte, on s'arrête d'abord dans l'Évangile. Et ce qui apparaît dans l'Évangile, c'est que le Seigneur promet de ne pas nous laisser seuls. Quand il parle de l'Esprit-Saint, la première chose qu'il dit, c'est qu'il ne nous laissera pas seuls. Il ne nous laissera pas livrés à nous-mêmes après son départ. Il ne nous laissera pas orphelins. Il nous donnera un paraclet. Alors c'est le mot grec, le paraclet, ça veut dire l'avocat. C'est exactement le même mot, vous savez, advocatus, c'est celui qui est appelé à côté d'eux. Hein, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est accusé de quelque chose, on appelle un avocat à côté de lui pour qu'il prenne sa défense. Et c'est la même image, le paraclet, le mot grec, c'est celui qui est appelé à côté. Du coup, ce paraclet, c'est l'Esprit-Saint qui nous sera donné par le Père et le Fils, comme on dit dans le Credo. Vous savez, dans le Credo, on dit il procède du Père et du Fils. Les orientaux, ils préfèrent dire il vient du Père par le Fils. Bon, mais peu importe, je crois que c'est la même réalité. C'est que le Père et le Fils sont à l'œuvre dans le don de l'Esprit-Saint.